France Culture.
Moïse était un fan d'automobile. On disait pas voiture, on disait automobile, et il adorait ça. Mais j'aime bien cette image. C'est en 1895, une photo sépia. Hein. C'est sa première voiture. C'est ce qu'on appelait un vis-à-vis Peugeot avec un moteur Panhard Levassor. Tenez-vous bien, avec roues à fil et essieux courbés en leur centre. Donc fin 19e, c'est un pionnier. Hein. Parce que les automobiles, il y en a très peu. Et lui adorait ça. Et donc il a eu une collection très rapidement. Et il adorait conduire. Hein. Qu'est-ce que c'était casse-gueule hein. Quand on voit l'épaisseur des roues, tout ça. Mais c'était une passion, donc il en a eu plusieurs. On le voyait plus souvent là qu'à cheval. Là, c'est une photo émouvante. Bon, on ne le reconnaît pas, évidemment, parce qu'il a une casquette et des lunettes de soleil. Il y a une sorte d'insouciance qui flotte sur cette image, que je trouve très belle, et en même temps, une insouciance, mais on sait que derrière, enfin, c'est sur le fil, quoi. Parce que tout peut s'effondrer, hein.
Moïse Camondo, 1860-1935, un collectionneur amoureux de la France. Un documentaire de Céline Duchesnay et Laurent Polleret. Pierre Assouline, vous êtes écrivain et auteur du dernier des Camondo. Moïse de Camondo est donc né en 1860 à Constantinople, dans une rue qui s'appelait la rue Camondo. Il n'arrive en France qu'à l'âge de 9 ans. Dans quel environnement, dans quelle famille vit-il et naît-il ?
Camondo, Moïse, a grandi dans une famille de l'Empire ottoman, une famille juive. Parce que les juifs, en terre d'islam, ont un statut différent. Alors on dit un statut de protégé, c'est aussi un statut discriminé, hein, parce qu'il faut qu'il paye des impôts, etc. Sauf que sa famille, quand lui naît, c'est une famille très puissante. Elle n'est pas devenue puissante comme ça. Elle est devenue puissante parce que, à l'origine, c'est des commerçants de Venise, mais qui sont passés par l'Italie. Mais avant ça, il y avait eu l'expulsion d'Espagne. Donc, il y a du chemin à chaque fois. Mais quand ils sont arrivés dans l'Empire ottoman, ils sont devenus ce qu'on appelait des sarrafs, c'est-à-dire des changeurs. C'est le début de la banque. Hein. Et donc, ces changeurs d'argent, c'était un métier autorisé pour les Juifs, donc un certain nombre d'entre eux le pratiquaient. Mais ils ont fait des merveilles et ils sont devenus les changeurs et les banquiers d'abord du sultan, et donc des hauts dignitaires de l'Empire ottoman de l'époque. Ça fait leur fortune. Mais aussi, ils l'ont été pendant les guerres d'unification de l'Italie. Et donc là, le roi d'Italie leur a su gré de leur aide, et les a fait compte. C'est là qu'ils ont été anoblis. Donc il a grandi dans une atmosphère à la fois traditionnelle, d'un judaïsme traditionnel, mais tolérant, ouvert. Et ça, on le sait parce que le judaïsme de Constantinople au XIXe siècle a été très étudié. Hein. Et il y avait notamment deux grandes tendances. Cette tendance-là, que je dirais celle des Camondo, qui ont quand même fait un escalier art déco qui est très célèbre à Istanbul, enfin à Constantinople, qui existe toujours, mais donc ça montrait déjà un goût pour l'ouverture. Donc il est né dans une famille où déjà on s'intéressait aux arts, on s'intéressait à la musique, mais aussi on était cosmopolite dans le meilleur sens du terme. Il a toujours entendu parler plusieurs langues à la maison, notamment l'italien, évidemment le turc, ça va de soi, mais aussi d'autres langues, ça a compté. Et le judaïsme des Camondo, c'est un judaïsme libéral, c'est-à-dire ouvert. Et c'est une des raisons qui ont fait que les Camondo ont quitté l'Empire ottoman pour l'Occident, c'est qu'ils ne supportaient plus cette ambiance, parce qu'ils avaient vraiment des guerres intestines avec les rabbins orthodoxes de leur communauté. Il y avait vraiment des vrais chocs, des vrais problèmes entre eux, sur la conception même de la religion et de la société, tout simplement. Et ils en avaient assez. Je pense que c'est une des raisons, c'est pas la seule, qui ont... Et puis, par ça, ils ont pensé que Il y a eu un moment, fin 19e, ils se sont dit, c'est en Occident que ça se passe, c'est en Europe que ça se passe. C'est pas là où nous sommes. Donc, c'était pas seulement Paris, bien sûr, mais aussi Berlin, Vienne, Rome, ça les attirait énormément.
Cyril Grange, vous êtes historien, spécialiste des élites juives au 19e et 20e siècle. Pourquoi la famille de Camondo a-t-elle décidé de quitter Constantinople ? Pourquoi cette envie de Paris ?
Alors je dirais que je vois deux raisons en l'espèce. Il y a une raison économique qui était que donc le père et l'oncle de Moïse ont considéré que il était finalement pour leurs affaires plus simple et plus efficace d'être à Paris, d'être en Europe occidentale pour négocier les emprunts d'État de l'Empire ottoman, puisque l'Empire ottoman avait décidé à ce moment-là que il voulait des réunions de banquiers aussi avec des banquiers occidentaux, en plus des Camondo. Donc il y a cette raison économique où pour eux c'est plus intéressant d'être là. Il faut savoir que l'arrivée des Camondo à Paris s'inscrit dans l'arrivée d'un grand nombre de familles étrangères, notamment des banquiers allemands, qui viennent installer, comme les Rothschild par exemple, une filiale à Paris parce que la banque privée à l'époque nécessitait d'avoir des représentants, des filiales, entre guillemets, dans un certain nombre de villes capitales. C'est ce qu'ont fait les Rothschild, puisqu'ils sont à Londres, ils sont à Paris, ils sont à Vienne, ils sont à Naples, et ils sont à Francfort, puisque c'est de là dont ils sont partis. Mais ce modèle est un modèle relativement répandu, entre guillemets, puisqu'on retrouve ça chez les Stern, chez les Königswarter, chez les Kahn. Les gens se souviennent, le mot de la banque Stern est toujours connu, la banque Kahn ne l'est plus, la banque de Königswarter ne l'est plus, etc., etc. Mais enfin, il y avait toute une élite qui est venue s'installer ici. Ce sont des gens qui, un siècle auparavant, et même moins pour notamment les Allemands, vivaient dans des sociétés dans lesquelles le statut des Juifs était difficile. Et puis la deuxième, c'est l'attrait de Paris, de cette capitale effervescente, merveilleuse à ce moment-là. C'est une des raisons aussi principales. C'est ce que dit le père de Moïse dans sa correspondance avec son frère. Il a dit « ça va être formidable de vivre à Paris ». Il y a aussi une troisième raison, mais qui est générale et qui explique l'arrivée de beaucoup de Juifs en France à ce moment-là, c'est que la France a été le premier pays qui a donc émancipé les Juifs.
Pierre Assouline, qui est Moïse de Camondo ?
On pourrait l'évoquer à partir d'une seule de ses dimensions, celle du philanthrope, celle du collectionneur, de l'amateur, de banquier, pourquoi pas. Moi, je préfère l'évoquer dès le départ comme un amoureux de la France. Le point de départ, c'est ça. D'abord parce que lui et sa famille ont choisi la France. Ils ont choisi de quitter cette terre. La plupart d'entre eux sont nés, ils sont tous nés là-bas. Je parle de cette génération du milieu et de la fin du 19e siècle, qui ont fait souche là-bas. Et ils ont fait le choix de partir. Et la France, parce que c'est la terre des arts, des lettres, c'est un certain esprit, c'est une langue. Il ne faut pas oublier qu'ils parlaient français avant d'arriver en France. C'est important, ça aussi. Tout ça, pour moi, fait que Moïse de Camondo, quand il débarque en France, il se sent chez lui de plein pied. Alors que, comme dit la presse antisémite de l'époque, c'est un levantin. Et il faut imaginer à quel point ça peut être péjoratif sous la plume des folliculaires de la fin du 19e dans ce genre de presse-là. C'est la raison pour laquelle cette passion française, il a fait construire cet hôtel particulier, exceptionnel, qui est le musée Minissime de Camondo. Parce que pour tout vous dire, j'ai connu cette maison il y a 40 ans. J'écrivais la biographie de Marcel Dassault. Un jour, je vois quelque part, quand il était petit, Marcel Bloch, il s'appelait Marcel Bloch à l'époque, quand il était petit, donc au début du XXe siècle, allait jouer dans le jardin de ses cousins Camondo. Alors d'abord, je débarquais, je ne savais même pas qu'ils étaient cousins, et puis donc je me renseigne, et j'entends parler de cet hôtel Camondo, que je ne connaissais pas, j'y suis allé. Alors à l'époque, il était totalement dans la naphtaline, hein. Je me suis pris d'affection pour cet endroit, mais comme ça, je n'avais aucune intention. Mais je trouvais dommage que personne ne le visite et qu'il y ait si peu de touristes et de visiteurs. Et puis un soir, un de mes amis, Maurice Levers, j'aimais beaucoup, un historien, reçoit un grand prix littéraire pour un livre sur Sade en Italie. Et il y avait une exposition Sade en Italie au rez-de-chaussée de la cour Camondo. Il me dit, je t'invite parce que tu m'as tellement parlé de cet endroit. Et donc j'y suis allé, c'était somptueux. On a dîné dans le jardin, il faisait beau. Et je regardais l'hôtel, je n'avais jamais été la nuit, éclairé comme ça et vide. Puis à un moment, je demande la permission d'aller aux toilettes. Et on me dit, oui, c'est au deuxième étage. Donc j'y vais. J'étais seul dans l'endroit. Je monte et je vois qu'il y a une pièce qui avait été inaugurée peu avant, que je ne connaissais pas, qui est le, comment on appelle ça, c'est un musée dans le musée, c'est une pièce du souvenir sur la famille. Donc avec des choses, différents documents, des photos, choses comme ça. Et je vois l'arbre généalogique, qui n'existait pas avant, un vrai arbre généalogique, qui commence à Venise, qui finit à Auschwitz. Et là, ça m'a fait prendre conscience d'un coup de l'itinéraire. Et alors, je suis redescendu, je me suis assis, et mon ami me dit, tu fais une drôle de tête. Et je lui ai dit, demain, je commence mon nouveau livre. Ah, il me dit, ah bon, et c'est quoi ? Je dis, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de livre, personne ne sait qui sont les Camondo. Et je lui ai dit, mais voilà, j'ai vu cette arbre généalogique, et pour moi, c'est un résumé et un choc. Et je me suis lancé.
Ariane James-Sarrazin, vous êtes conservatrice du musée Nissim de Camondo. Est-ce que vous pourriez nous dire où est-ce que nous nous trouvons ?
Nous nous trouvons dans la cour d'honneur de l'hôtel de Camondo qui se situe au 63 rue de Monceau, dans le 8e arrondissement de Paris. Cette cour, c'est une cour qui a la forme d'un fer à cheval. Nous y entrons par une porte cochère du XVIIIe siècle. Et c'était bien la volonté de Moïse de Camondo de construire une sorte de réplique très moderne par ses aménagements intérieurs, mais une réplique fidèle de ce qu'étaient les demeures aristocratiques du XVIIIe siècle à Paris.
Est-ce que vous pourriez nous décrire la façade de la maison que nous avons sous les yeux ? Parce que c'est une maison où Moïse de Camondo habitait.
Exactement. Moïse de Camondo y a habité à partir de 1914, puisque son architecte, René Sergent, qui était alors très connu et qui était notamment l'architecte de nombreux palaces à travers toute l'Europe, a réalisé les travaux entre 1911 et 1914. À partir de 1914, Moïse de Camondo y vit avec ses deux enfants, Nissim et Béatrice, et il y restera jusqu'à sa mort en 1935. C'est donc une maison qui présente deux façades différentes, comme dans n'importe quel hôtel tel qu'on pouvait les connaître au XVIIIe siècle, c'est-à-dire une façade assez sobre du côté de la cour d'honneur qui donne sur la rue et une façade qui donne sur le jardin et qui, elle, est beaucoup plus ornée et pittoresque dans sa disposition. Donc cette façade, elle ressemble beaucoup au petit Trianon de Versailles, puisque Moïse de Camondo, comme beaucoup de collectionneurs de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle dans le sillage des frères Goncourt, voue une passion extrêmement importante au XVIIIe siècle, plus particulièrement à l'époque de Marie-Antoinette et de Louis XVI. Et donc, il va demander à René Sergent de lui construire un hôtel qui soit comme un petit Trianon, rue de Monceau. Et de fait, l'architecture qui est devant nous ressemble au petit Trianon.
Et donc, c'est à la fois ce que nous avons devant nous, cette maison de Moïse de Camondo et de sa famille, et aussi l'enveloppe qui contient la collection 18e siècle de Moïse de Camondo, comme si c'était finalement une œuvre totale.
C'est une œuvre totale. Moïse de Camondo a construit cet hôtel en fonction de sa collection et non pas l'inverse. Ce qui fait de cet hôtel une pièce de sa collection comme une autre, si j'ose dire. Ce qui est tout à fait fascinant lorsque on regarde dans le détail la façon dont René Sergent et Moïse de Camondo ont réfléchi cet hôtel, c'est que tout a été subordonné à la collection. Moïse de Camondo achète des boiseries, la hauteur des boiseries détermine la hauteur des pièces des différents appartements. Moïse de Camondo acquiert une tenture des fables de La Fontaine auprès du marchand Jacques Zeligman. René Sergent avait prévu un tout autre décor. Qu'à cela ne tienne, il modifie son dessin pour permettre à Moïse de Camondo d'exposer les 6 tentures qu'il vient d'acheter au cours du chantier. Tout est fait pour la collection et l'architecture n'est là que pour sublimer la collection.
Et la collection n'est pas mise à part dans la maison, c'est-à-dire qu'elle est dans toutes les pièces. C'est-à-dire que, est-ce que par exemple Moïse de Camondo dormait dans un lit du XVIIIe siècle? Est-ce qu'il prenait ses repas dans des couverts du XVIIIe siècle? Est-ce que ses invités s'asseyaient dans des fauteuils du XVIIIe siècle?
Moïse de Camondo n'est pas un conservateur de musée. Il est un collectionneur et un homme qui vit le XVIIIe siècle, mais un collectionneur tout à fait particulier. Le XIXe est le siècle du collectionnisme, du goût poussé à l'extrême du bibelot. Mais contrairement à beaucoup de collectionneurs, Moïse de Camondo n'expose pas sa collection à la manière d'un musée, dans des vitrines, en ne touchant pas aux objets, en faisant très attention à ce que ils soient privés des regards indiscrets ou des attaques du soleil. Il vit avec sa collection, il vit dans sa collection, il est un homme du XVIIIe siècle, il vit comme Louis XV, comme Marie Leczinska, comme Louis XVI, comme Marie-Antoinette. Et il vit dans une connaissance extrêmement fine et profonde de ce qu'est le XVIIIe siècle. Moïse de Camondo n'est pas du tout passéiste. Il voit plutôt dans cette fin de l'Ancien Régime le meilleur de ce que les arts en France ont pu donner. Et dans sa volonté de s'insérer dans un patrimoine français qu'il a élu comme terre d'accueil, il se doit de célébrer, selon lui, ce qui est le meilleur de cette culture et de ce patrimoine. Je pense qu'il faut voir dans cette passion que Moïse de Camondo a pour le XVIIIe français la manifestation de son attachement à la terre qu'il a accueillie. En cela, il rejoint un attachement qui est très présent au sein de la communauté juive française. Depuis le Premier Empire, la France a donné avec Napoléon une reconnaissance de culte à la communauté juive, et beaucoup de familles des élites juives au XIXe siècle et au début du XXe siècle, surtout dans le contexte d'antisémitisme marqué par l'affaire Dreyfus, montrent et démontrent leur attachement profond à la France et aux valeurs qu'elle véhicule.
Prévenez Édouard que Monsieur le Comte part pour Aumont ce soir. Merci. Ah. Venez, bonjour. Approchez. Excusez-moi, la maison est en effervescence. Bonsoir. Entrez. Bonjour, je vous en prie. Je vous précède. Je me présente, Pierre Godefin, maître d'hôtel du comte Moïse de Camondour. Alors, je suis ravi de vous accueillir dans sa demeure. Monsieur le comte m'a prévenu de votre venue pour découvrir...
Il l'a fait, bien sûr.
Pour découvrir tout le fonctionnement de notre hôtel particulier. Venez, suivez-moi. Quel jour sommes-nous, s'il vous plaît?
Le 23 juin.
Le 23 juin 1930. Oui. Non, ma mémoire me fait défaut parfois. Excusez-moi, tenez. Suivez-moi. Oh. 23 juin 1930. Ah, en 1900. Oui, depuis que je suis au service de Monsieur le comte, en 1905, bien sûr. Et avant, j'étais au service de son oncle, Abraham Béor de Camondo, voilà, qui était banquier aussi, comme Monsieur le comte. Suivez-moi. C'est le nom de charge. Je vous précède, je vais très rapidement voir ce que Monsieur le comte me veut. Je reviens de suite. Ah, oui, monsieur le comte. Oui, oui, bien sûr. Oui. Vous êtes ici.
Je vous retrouve. Écoutez, vous m'avez l'air sympathique, je vais aller un peu plus loin, je vais vous montrer mon bureau, si vous êtes d'accord. Oui,
c'est... Alors, c'est l'endroit le plus petit de toute la maison, bienvenue. Alors voilà, c'est mon bureau. Puis, alors c'est le plus petit, mais nous avons une vue assez plongeante sur les jardins de l'hôtel particulier. Et voilà, c'est ici que je travaille. Vous voyez ici, vous retrouvez tout le... C'est un plan de coupe de l'hôtel particulier. Vous voyez, nous sommes au premier étage. Vous voyez, l'escalier, ici nous avons le fumoir, où nous avons vu les tapisseries de la fontaine, le grand salon, où, avec la bouteille à saké, puis également bonheur du jour, vous savez, la table à gradins avec la porcelaine, le salon des huées, les tapisseries que vous avez beaucoup aimées d'ailleurs, les tapisseries de Jean-Baptiste Huet. Et puis, alors les deux commodes, je vous ai parlé des deux commodes, vous savez, là où je vous ai parlé un peu du côté de Monsieur le Comte. Alors c'est un collectionneur assez, comment dire...
Pointilleux.
Tenace, pointilleux. Alors c'est peut-être une de mes pièces préférées, la bibliothèque. C'est ici que Monsieur le Comte offre le café à ses invités, un café turc. Alors sachez que, puisque maintenant on est un petit peu dans la confidence, sachez que cette pièce est aussi la pièce préférée, l'endroit préféré de Guylaine Flageol, l'intendante, que vous allez peut-être rencontrer, que vous avez peut-être rencontré. Très bien. Adorable. Poursuivons. Oh, c'est une institution dans la maison. Oui, voilà.
Guylaine Flageol, vous êtes intendante au musée Nissim de Camondo et vous y travaillez et vivez depuis 1991, soit 34 ans.
C'est ça, absolument. Je suis arrivée ici, oui, le 15 avril 1991, sur un poste de concierge, et puis qui a évolué au fur et à mesure des années.
Et là, où est-ce que nous nous situons exactement?
Ben ici, nous sommes dans les parties communes, c'est-à-dire les parties, les communs sur rue, qui étaient autrefois aussi les appartements de certains employés de maison. Donc ici, ça devait être l'appartement du concierge. Et à côté, vous aviez, au-dessus, vous aviez aussi d'autres appartements qui devaient être pour le jardinier, pour le chauffeur, pour le mécanicien, entre autres.
Et aujourd'hui, c'est votre appartement.
Voilà, c'est mon appart. Enfin, mon appart. C'est l'appartement qui m'est, oui, alloué pour, voilà, en fonction de mon emploi, oui.
Alors, si on regarde par la fenêtre,
oui, alors
ce que
si
vous devez faire tous les matins, j'imagine.
C'est ça. Très souvent, je me mets ici parce que j'ai la vue sur l'hôtel de Munissime de Camondo. C'est un endroit magnifique et j'aime me poser ici, oui.
Et vous allez dans le jardin?
Et je vais, ah oui, le jardin, oui, souvent, parce que je fais l'arrosage des buis. Et puis je regarde s'il y avait un souci au niveau végétation pour demander lors du passage du jardinier ce qu'il faut faire et les consignes et ce qu'il faut appliquer pour remédier au problème.
Eh bien alors allons-y.
Allons-y.
Donc là on est rentré dans la maison, vous avez un trousseau de clés conséquent.
Un petit peu, oui. Donc une serrure, une clé. Les portes n'ont pas, sont d'origine pour la plupart. Alors on est sur la partie est du musée, c'était donc ici la partie où se faisaient toutes les livraisons, puisque aucune livraison ne se faisait par la cour d'honneur, et donc toutes les livraisons se faisaient là, et le maître d'hôtel faisait réceptionner toutes les marchandises et contrôlait toutes les marchandises. On arrive dans le jardin.
Il y a un merle, on voit des moineaux.
Voilà, c'est ça. Et il y a les buis, avec les mêmes dessins qui sont restés. Le choix de Moïse de Camondo, mais différemment, puisqu'il n'y avait pas que des buis auparavant. Il mettait aussi des fleurs et tout ça. Et après, ça a changé, il n'y a eu que des buis. Et donc, c'est là où j'arrose les buis, faire attention qu'il n'y ait pas de, qu'ils ne soient pas infestés de la pyrale. Et donc là, il faut prévenir les jardiniers pour qu'ils fassent des traitements. Ici, c'est très agréable. Et là, donc, vous avez une perron, deux escaliers qui rejoignent cet espace. Donc un qui part du grand salon, où les invités pouvaient descendre dans les jardins. Et un qui est ici, qui part de la salle à manger. Et également rejoint cet espace, rejoint le jardin. Donc ça devait être très agréable, après le déjeuner, de descendre ici dans ce jardin Moïse de Camondo avec la réception. Très bel endroit, très agréable, très reposant.
On va peut-être arroser les buis ?
Allez, on y va. Ça commence. J'espère que peut-être Moïse de Camondo aurait été content. J'espère qu'il est, s'il nous voit. Il est content de ce que l'on se fait ici pour la maison et mes collègues également et tout autre service, oui. Et c'est ce que Moïse de Camondo le souhaitait, c'est que le personnel, après son départ, avec le volontariat du personnel, bien entendu, soit repris, soit gardé, parce que justement, ils connaissaient la maison, ils savaient comment entretenir le bâtiment, les collections. Et il s'était indiqué dans ses informations aux futurs conservateurs. Donc j'espère que, oui, aussi bien, j'espère. J'ai surtout beaucoup de respect pour cette maison. Et surtout Moïse de Camondo et ses enfants. Et, oui, parce que justement, l'ayant donné à l'État ce qui est devenu musée, qui peut-être s'il avait, forcément, si Munissime en avait hérité, la vie aurait été autrement.
Alors, c'est ici. Donc ici, nous découvrons la chambre de Munissime. Entrez. Alors, la chambre de Nissime était à l'origine la pièce juste à côté qu'on va découvrir ensuite. Mais Monsieur le Comte, suite au décès de son fils, vous savez peut-être, vous savez sans doute que Nissime était mort dans la Meuse lors de la Première Guerre mondiale le 5 septembre 1917. Son avion s'est écrasé en pleine nuit et il n'a pas survécu, ce qui a laissé Monsieur le Comte dans un grand désarroi. Et suite à son décès, Monsieur le Comte a transformé cette pièce et a fait une chambre à la mémoire de Nissime. On retrouve Voilà, une photographie de Nissim en habit militaire, et puis le lit et différentes choses. Alors,
attendez, il faut que je réponde. Là, le tableau est ici. Oui, allô. Ah, non, tout fonctionne. Non, le chauffage a été vérifié avant-hier, donc je pense que tout fonctionne. Jamais il y a un problème, je m'occuperai moi-même d'appeler le responsable. Non, je vais vérifier, je descends, je viens vérifier tout de suite. Merci.
Pierre Assouline.
Quand on me parle de Moïse de Camondo, ce n'est pas à la richesse que je pense. Que des hommes riches, il y en a plein. Je pense à sa singularité et je pense à sa solitude. Parce que c'est un homme seul. C'est un homme seul d'abord parce qu'il a construit une famille, deux enfants, une femme, mais il a été très vite abandonné par sa femme qui a demandé le divorce. Il faut quand même imaginer ce que c'est dans cette société de la haute bourgeoisie juive israélite, disons, de la fin du 19e, début 20e, qu'une jeune femme qui dit s'ennuyer avec son mari décide de divorcer pour en plus épouser le comte Sampieri, c'est-à-dire un aristocrate italien mais désargenté qui est qui s'occupe des chevaux et des écuries de Moïse de Camondo, et partir avec lui, qui était son amant. Ça a fait scandale, évidemment. D'autant
et on est
plus.
En 1902.
Oui, c'est quand même très tôt. À cette époque, ça ne se fait pas. Ce qu'elle fait ne se fait pas, mais elle le fait. Ce qui prouve déjà un certain caractère et une forte personnalité. Donc cet homme, il est esselé. Il a abandonné, il ne s'est pas remarié. Bon, c'est difficile pour lui, sur ce plan-là, sur le plan sentimental, disons. Mais alors, ce qui est la catastrophe, et qui change toute sa vie, et qui va être la date principale de sa vie, c'est la mort de son fils. Puisque dans ses plans, donc il a un fils et une fille, et il aura deux petits-enfants. Mais dans son plan, c'est Nissim, donc. Je vous rappelle que Nissim, en hébreu, c'est le pluriel de Ness. Ness, c'est miracle. Donc cet enfant, c'est l'enfant du miracle. Eh bien, Nissim, c'est un garçon qui doit apporter tous les espoirs de son père pour l'avenir, non seulement parce qu'il compte lui léguer la banque, parce que ça l'intéresse pas du tout. Moïse de Camondo, à partir du moment où il se lance dans son grand projet de faire construire la maison idéale d'un gentilhomme français du XVIIIe siècle, avec la collection qui y correspond, le reste n'intéresse plus. De toute façon, le reste l'intéressait de moins en moins. Donc il destinait son fils à ça. Et puis, son fils est mort pendant la Première Guerre mondiale. Il a fait son devoir et en 1917, lieutenant d'observation, c'est-à-dire celui qui fait des photos aériennes pour faire des repérages et du renseignement, il est mort. Son avion a été abattu par les Allemands en 1917.
Monsieur, j'apprends avec une profonde tristesse que vous êtes tourmenté sur le sort de votre fils. Je ne sais même pas si mon nom vous dira quelque chose. Je dînais autrefois avec vous chez Madame Cahin, et plus récemment, quoique ce soit bien lointain encore, vous m'avez une fois emmené dîner avec le cher Charles Frussy, que j'aimais profondément. Tous ces souvenirs sont bien anciens. Ils ont suffi pourtant pour que j'aie le cœur serré jusqu'à l'angoisse, en apprenant que vous étiez sans nouvelles de votre fils. Je ne peux confirmer à quel point je comprends, je plains, et de quel cœur je souhaite qu'une nouvelle heureuse vous arrive. Je ne connais pas votre fils, mais j'ai souvent entendu parler de lui par mon jeune ami Jacques Truel, pour qui votre fils a été exquis quand il a été blessé. Et Truel m'a souvent parlé de l'héroïsme et de la simplicité du jeune homme. La fatigue de mes yeux ne me permettent pas d'écrire, car sans cela j'aurais aussi écrit à sa mère, qui doit être si anxieuse et si désolée. C'est à vous, sachant le père incomparable et si tendre que vous êtes, que j'ai tenu, tout en partageant les soucis de tous, à vous envoyer mon souvenir le plus profondément ému. Marcel Proust.
De cette disparition, Moïse de Camondo ne s'est jamais remis. Il est mort une première fois ce jour-là. Cet endroit, cet hôtel de Camondo, rue de Monceau, Il était fait quand même pour recevoir des gens, pour des fêtes proustiennes. Et je dis des fêtes proustiennes parce que Proust, effectivement, était aux obsèques. Je parle du jeune Camondo. Hein. Il avait écrit une lettre, il avait fait une visite de condoléances. Donc c'était ça l'ambiance, ça devait être ça l'ambiance. Déjà le départ d'Irène, de Camondo, ça a été quelque chose. Mais alors, la mort de son fils, c'était fini pour lui. C'était déjà autre chose. Et donc là, il change son testament.
Ceci est mon testament. Désirant perpétuer la mémoire de mon père, le comte Nissim de Camondo, et celle de mon malheureux fils, le lieutenant pilote aviateur Nissim de Camondo, tombé au combat aérien le 5 septembre 1917, je lègue au Musée des Arts Décoratifs à Paris mon hôtel 63 rue de Monceau, tel qu'il se comportera au moment de mon décès, c'est-à-dire avec tous les objets d'art et d'ameublement qu'il contiendra. Il sera donné à mon hôtel le nom de Musée Nissim de Camondo, nom de mon fils auquel cet hôtel et ses collections étaient destinés. En léguant à l'État mon hôtel et les collections qu'il renferme, j'ai envie de conserver dans son intégralité l'œuvre à laquelle je me suis attaché de la reconstitution d'une demeure artistique du XVIIIe siècle. Cette reconstitution doit servir dans ma pensée à l'éducation des artistes et des artisans. Elle permettra en outre de conserver en France les plus beaux objets que j'ai pu recueillir de cet art décoratif qui a été une des gloires de la France durant la période que j'ai aimée entre toutes. Aucun objet ne pourra être éliminé de ma collection, tout devra être exposé. Par contre, aucun objet ne pourra y être ajouté. J'entends enfin, d'une façon absolument formelle, sous peine de nullité, que le présent legs doit être global, c'est-à-dire pris et accepté dans son ensemble. Fait à Paris, le 11 janvier 1924, le comte Moïse de Camondo.
Moïse meurt, Béatrice, sa fille, est toujours de ce monde. Elle accompagne le testament de son père, elle ne fait rien contre ce testament, bien au contraire.
Non, Béatrice n'a jamais contesté le testament. Elle adorait son père, elle avait épousé un homme qui n'était pas démuni, et la famille Rénac. Donc ils ont tout de suite décidé d'habiter boulevard Maurice Barrès, à Neuilly, donc face au bois de Boulogne. Elle n'avait aucune raison de contester, et puis elle adorait son frère, et donc que cet endroit, cette maison, soit baptisée du nom de son frère, ça l'a touchée beaucoup. Donc non, elle a accompagné et elle a fait en sorte que tout aille selon le vœu de son père.
On monte à l'étage.
On monte à l'étage voir les
voilà.
Archives.
Alors, voilà. Ariane James Sarrazin.
Donc au deuxième étage, sous les combles, nous avions à la fois des espaces qui servaient au service, comme la lingerie, le nettoyage, le garde-meuble, et également des chambres qui servaient aux domestiques femmes. Dans l'une de ces espaces domestiques, dans la penderie du fils Nissim de Camondo, nous conservons l'ensemble des archives de la famille Camondo, qui est un véritable trésor pour connaître à la fois l'histoire de cette famille, mais aussi la constitution de la collection, puisque Moïse de Camondo tenait très précisément le registre de ses différents achats, ce qui nous permet, pour la plupart des pièces ici rassemblées, 4000 hein, à peu près, de connaître leur provenance, le prix auquel il les a achetées et différentes indications sur leur qualité. On a de la correspondance, bien sûr, toute la correspondance de Nissim, le fils de Moïse pendant la Première Guerre mondiale. Nissim écrit très régulièrement à son père et à sa sœur des lettres extrêmement touchantes où il parle de tout, de rien, mais où transparaît la très grande affection qui lie les différents membres de la famille au-delà de la séparation douloureuse pour les enfants qu'ils ont connue de leur père et de leur mère.
Est-ce que dans les archives qui sont ici présentes, il y a des documents qui nous parlent du destin de la famille de Moïse de Camondo? Parce que Moïse de Camondo meurt donc en 1935. On sait que son fils, il a eu deux enfants. Son fils Nissim meurt à la guerre en 1917. Que s'est-il passé pour Béatrice, sa fille et ses enfants?
Alors, si l'on est bien documenté pour la période de la Première Guerre mondiale, notamment grâce à la correspondance entretenue par le fils Nissim avec ses proches, on en est réduit à des informations plus lacunaires en ce qui concerne le destin tragique de Béatrice de Camondo et de sa famille. Il faut chercher les éléments épars dans les archives publiques liées à la Seconde Guerre mondiale. On sait que en 1942, le couple formé par Béatrice et Léon bat de l'aile et Béatrice et Léon vont se séparer. Léon va prendre sous son aile son fils Bertrand, tandis que Fanny, la fille de Béatrice et Léon, va rester auprès de sa mère. Bertrand et Léon, son père, vont essayer de gagner la frontière espagnole, conscient du danger et de ce qui les attend, alors que Béatrice, elle, pense être protégée à Paris par sa nationalité française. Elle pense que le gouvernement de Vichy et les Allemands ne s'en prendront qu'aux Juifs étrangers. Et donc, elle continue à mener sa vie, j'ai envie de dire presque comme si de rien n'était, jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée et envoyée à Drancy, où elle va retrouver Bertrand et son père Léon, qui ont été trahis par le passeur qui devait leur permettre de rejoindre l'Espagne. Là, ils vont vivre l'enfer de Drancy et l'ensemble de la famille va être déporté à Auschwitz. On pense, d'après le récit des survivants, que Bertrand et son père Léon ont été éliminés dès leur arrivée à Auschwitz. Fanny, elle, meurt du typhus. Quant à Béatrice, elle mourra en 1945, quelques semaines avant la libération du camp, sans que l'on connaisse véritablement les raisons de sa disparition. Est-elle morte d'épuisement, de maladie, de mauvais traitements? On ne sait pas.
Moïse est mort suffisamment tôt, si je puis dire, pour ne pas vivre l'horreur absolue de voir sa fille, ses petits-enfants gazés, exterminés. Mais lui est mort avant. Mais nous qui venons après, en tout cas moi en écrivant ce livre, ce qui m'est apparu, s'il fallait résumer d'une phrase le destin de la famille, du moins le destin par rapport à la France, son fils est mort pour la France. Sa fille et ses petits-enfants sont morts par la France. C'est quand même tragique. Quand on sait tout ce qu'il a fait pour la France, parce que quand même, il a fait don de cette maison et de sa collection.
Qu'est-ce qu'il représente exactement pour vous, Moïse de Camondo? Je dirais presque comme la personne que vous êtes qui le fréquente quotidiennement.
Moïse de Camondo, il est un ami. Il est un ami que je porte depuis très longtemps. Excusez-moi, je suis très, très émue parce que la figure de Moïse de Camondo résonne avec les premiers temps de ma carrière de jeune conservatrice aux Archives nationales, puisque je suis d'une génération qui a commencé sa carrière au moment de la mission Matteoli. Cette mission qui a permis de faire une grande lumière sur la collusion du gouvernement de Vichy avec les autorités allemandes et qui a amené le gouvernement français à mettre en œuvre des réparations, notamment financières, afin non pas de panser les plaies, elles sont toujours ouvertes, mais du moins de reconnaître la responsabilité de l'État français dans le drame qu'ont vécu les Juifs de France et les Juifs étrangers sur notre territoire. Et donc j'ai rencontré Moïse de Camondo à travers le livre notamment de Pierre Assouline en ses débuts aux Archives nationales où je recevais des ayants droit de familles juives qui enfin pouvaient faire des recherches dans le fameux fichier juif dans lequel elle découvrait des petites cartes relatives à l'identité de leurs ancêtres. Et donc, je me souviendrai toute ma vie de l'état d'effarement de ces familles, de leur peine, de leur chagrin incommensurable et de tout le parcours de combattants que je suivais d'étage en étage aux Archives nationales pour les amener jusqu'à la preuve de la spoliation dont leur famille avait été victime. Et pour moi, Moïse de Camondo, c'est cela.
Dear friend, I've been spending time in archives again.
Cher ami, j'ai repris mes séjours aux archives. Le printemps commence à peine et un sourd bourgeonnement travaille le parc. Les feuilles sont encore rares, mais la semaine prochaine sera autre chose. Matin froid et humide, et bien que le temps ne s'y prête guère, je reste un peu sur un banc. Même les chiens ne traînent pas. Il a plu, il existe un mot pour désigner l'odeur de la terre après la pluie. Pétrichor, qui sonne un peu français. À cette heure-ci, tout le monde semble être sur le départ. Il y a comme une énergie propulsive. Je me lève, marche sur le gravier mouillé, sors par les grandes grilles dorées sur l'avenue Ruisdael et prends à gauche la rue de Monceau. Je sonne au numéro 63 et attends une réponse. Je retourne aux archives. Puissante attraction de ces pièces sous les combles, jadis le quartier des domestiques, il y a un siècle.
Edmond Deval, vous êtes artiste céramiste et auteur des Lettres à Camondo. En 2021-2022, vous avez passé du temps dans cette maison pour écrire ce livre et faire une exposition au musée Nissim de Camondo. Qu'est-ce que vous y avez découvert ?
I was very fortunate and it's one of the great experiences of my life really to be allowed to spend time in this.
J'ai eu beaucoup de chance et c'est un des grands moments de ma vie d'avoir été autorisé de passer du temps dans cet endroit véritablement extraordinaire. Et il faut y passer du temps. C'est pas un musée qu'on visite au pas de course, c'est un lieu qui se révèle à vous très lentement. Pourquoi ces objets se retrouvent-ils ici ? Quel est le projet de Moïse de Camondo en leur trouvant à chacun une place ? Et puis, naturellement, on découvre qu'en montant l'escalier jusqu'au tout dernier étage de la maison, on arrive aux archives qui sont exceptionnelles. Et aux chambres des domestiques qui restent pleines d'étranges meubles, presque oubliés là, couverts de bâches contre la poussière. Vous ouvrez un placard et vous tombez sur des objets qui sont là depuis les années 30, couverts de poussière. Et ce qu'on découvre là, c'est que de nombreuses histoires parallèles cohabitent dans cette maison. Il y a une sorte d'histoire officielle
l'histoire que Moïse de Camando veut vous montrer. Et puis il y a l'autre, effroyablement douloureuse, effroyablement, l'histoire cachée de la famille. Et avec beaucoup de temps, il s'agit pour moi d'essayer de découvrir cette histoire.
Quel est le lien, Edmund de Waal, entre vous et Moïse de Camando? Parce que vous avez écrit un livre qui s'appelle « Lettres à Camando » où vous écrivez des lettres à Moïse de Camando. Donc quel est ce lien?
So there are so many connections. There are so many reasons why I might be interested in Moïse de Camando.
Il y en a tellement. Tellement de raisons pour que je m'intéresse éventuellement à Moïse de Camando. La première, j'imagine, c'est que lui et sa famille vivaient dans la même rue que la mienne, la famille Effrussi, rue de Monceau. Sa famille et ma famille y ont déménagé exactement la même année et ont construit une maison dans la même rue, deux familles juives. Et bien sûr, leurs membres se sont mariés entre eux, après s'être connus en tant que voisins. Mes cousins ont épousé des membres de la famille de Camando. J'ai donc un très fort lien familial avec la famille de Camando et avec son destin. Et c'est un lien profondément personnel. C'est pas dû au hasard, c'est intime.
Vous dites que quand vous entrez dans cette maison, la première chose que vous faites, c'est que vous l'écoutez. Vous écoutez les échos de la maison, le silence de la maison. Donc il y a quelque chose de l'ordre du son.
So I remember so vividly being really alone in that house and walking through it and beginning to listen.
Je me rappelle comme si c'était hier, de me retrouver complètement seul dans cette maison, de la traverser et de commencer petit à petit à l'écouter. Et qu'est-ce qu'on y entend? Il y a plein de petits bruits dans toutes les maisons, mais j'ai senti que je devais tenter d'écouter les échos du passé qui résonnent encore aujourd'hui. Les gens qui faisaient à manger dans la cuisine, ou Moïse de Camando qui lisait à haute voix dans sa bibliothèque ou qui écrivait une lettre, ou les enfants qui jouaient dans la nurserie. Tout ça, c'est imaginé. Mais très concrètement, je tente ici, comme dans tous mes livres, de passer assez de temps dans un lieu pour l'habiter de nouveau, pour capter ces silences, pour arriver à entendre ce qui s'est passé là et qui est encore peut-être présent. Ça paraît presque ridicule, mais c'est mon ridicule à moi. C'est ma façon de travailler.
Alors comment fait-on, Edmund de Waal, pour rendre de la vie, comme vous dites, à une famille qui n'existe plus à travers la céramique? De quelle manière on s'y prend?
The way that I worked on this extraordinary project at the Musée Camando was to write letters into porcelain. So what I did was and there are some actually in front of
La façon dont j'ai travaillé à ce projet hors du commun au Musée Camando a été d'écrire des lettres dans de la porcelaine. On en voit des exemples juste là face à nous. Vous pouvez entendre le son de la porcelaine. J'ai écrit des lettres à Moïse de Camando, des lettres à sa fille Béatrice, aux cousins de ma grand-mère Théodore Reynac et à leurs enfants. Une écriture, vous pouvez le voir là devant vous, une écriture vraiment très petite, gravée à même dans la porcelaine. Et j'ai disposé ces lettres de porcelaine sur des bureaux, des tables, des meubles à travers la maison, à travers le musée. Et puis j'ai fabriqué des bols, des récipients en porcelaine, et pour la plupart, je les ai brisés. Toute cette porcelaine très fragile en 1000 tout petits morceaux. Et j'ai déposé ces morceaux dans des endroits de la maison importants dans la vie de la famille. Alors qu'est-ce que je veux trouver par là? J'essaie simplement, très silencieusement, très délicatement, de rendre une nouvelle énergie à la maison, une nouvelle voix pour la maison.
Est-ce que c'est pour cette raison, Edmund de Waal, que dans la cour du musée, lorsque vous avez fait cette exposition en 2021-2022, Lettres à Camando, avec les céramiques qui étaient disposées dans le musée, dans la cour du musée, vous avez disposé 8 pierres qui rappelaient le kintsugi, ces céramiques japonaises qui évoquent la réparation avec les petits filets d'or. Est-ce que c'est pour cette raison que vous avez voulu utiliser aussi cet art japonais?
This Japanese art of kintsugi is a very important part of my practice, a very important metaphor. It's the ancient Japanese art of taking an object which has been damaged. It's not about repairing.
L'art japonais du kintsugi représente une part très importante de mon travail, une importante métaphore. C'est l'art ancestral japonais qui consiste à s'emparer d'un objet abîmé, non pas pour le réparer, mais à l'aide de fils de laque dorée, montrer la perte, comme je dis. On souligne les parties qui ont été brisées et abîmées. C'est un moyen très fort de montrer que quelque chose d'important est arrivé à cet objet, à cette chose en ce monde, et c'est lui donner une nouvelle vie différente pour l'avenir. Pour cette exposition au musée Kamando, j'avais installé des bancs en pierre à l'extérieur, une série de bancs sur lesquels les gens pouvaient s'asseoir pour réfléchir. Quand on passait du temps là, on pouvait voir que sur l'arête de ces bancs, j'avais utilisé du plomb et de l'or pour marquer la pierre. Comme dans le kintsugi, pour montrer que quelque chose s'était abîmé et qu'on peut prendre le temps pour penser que la vie qui continue, conservera ce qui s'est abîmé avec quelques respects.
Vous disiez tout à l'heure que vous avez beaucoup écouté la maison en entrant. Est-ce que une fois que vous avez déposé toutes vos céramiques, vous avez entendu autre chose?
I tell you the most moving thing for me. Nothing happens quickly, and this was an exhibition that was long planned, and then I wrote a book which slowed us all down. And I think the thing that
je vais vous dire ce qui provoque chez moi le plus d'émotion. Rien n'arrive très rapidement, vous savez, pour moi. Cette exposition était prévue de longue date. Et puis j'ai écrit un livre qui nous a tous ralentis. Je crois que ce qui, pour moi, a provoqué l'émotion la plus intense, c'était le soir du vernissage de l'exposition. Je sortais vers la rue de Monceau, je quittais cette cour intérieure magnifique, cette façade incroyable, et je me suis retourné. Toutes les lumières du musée étaient allumées. Les enfants jouaient dans la cour, ils sautaient d'un banc à l'autre. Le sentiment, les bruits de la maison avaient été transformés. La maison était habitée de nouveau. C'était une fête. Je me suis dit, quand était-ce la dernière fois qu'il y a eu une fête de famille au musée Kamando? J'ai repris mon chemin, extrêmement ému. Dans ce sens, ce livre et cette exposition ont redonné ces sons et ces bruits à cette maison.
Monsieur,
je ne peux m'empêcher de remarquer que vous aimez les meubles à transformation. Cette maison est comme un coffret à secrets. Poussez cette porte doucement. Il y a des espaces ici, des silences. Une chose en devient une autre. Une personne une autre, des portes pour se faufiler, s'évader.
Moïse de Kamando, 1860-1935, un collectionneur amoureux de la France. Avec, par ordre d'apparition, Pierre Assouline, Cyril Grange, Ariane James-Sarrazin, Guylaine Flagel et Edmond Deval. Comédien, Damien Roussineau de la compagnie Incauda qui propose des visites guidées théâtralisées au musée Nissim de Kamando. Lecture, Jean Lebrun. Traduction, Harold Manning. Prise de son, Laurent César et Michel Cassic. Mixage, Marie-Claire Oumabadi. Chargée de programme, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin. Merci à Sophie Motsch. Un documentaire de Céline Duchesnay et Laurent Polleret.